Sois béni, Franck.
Merci pour votre accueil, ça fait du bien. Alors, je vous propose qu'on dise un petit bonjour à Karen, là, parce qu'elle est avec nous depuis l'hôpital. Et ça peut être super qu'on dise « Salut Karen, on est avec toi. » Et t'es pleinement avec nous. Voilà, ça c'est la magie spirituelle et la technologie un peu quand même. Quel culte, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai été bougé, hein. Que ce soit par la louange, par la présidence. Et vous savez, quand on est bougé comme ça, et quand tout ce que vous avez tenté de préparer est tellement confirmé, tellement introduit, ça met une pression supplémentaire de ne pas casser cette dynamique. Et par la grâce de Dieu, on ne va pas la casser. Et en introduction, hein, ça a commencé dès l'introduction de Norbert, qui a parlé d'être éparpillé, qui a parlé d'être désunis, etc., et qu'on avait besoin d'être réunis. Et si on peut afficher la slide numéro 1, je vous propose qu'on se réunisse autour de cet ordre de mission. Parce que pour réunir une armée, pour réunir un peuple, pour réunir une communauté, quoi de mieux qu'un ordre de mission ? Et quel bel ordre de mission nous avons de la part de notre Seigneur. Alors vous savez qu'on conclut un cycle, une étude sur ce passage, et bon, j'ai le plaisir de conclure. Et je vous propose qu'on se lève, et conscient de cet ordre de mission, qu'on puisse lire ensemble, relire ensemble cet ordre de mission. On y va ? Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de m'avoir écouté, je pense que ça suffit. Que dire de plus ? Que dire de plus aujourd'hui ? À cette promesse, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que dire de plus ? Que dire de plus que sans la présence de Dieu ce matin, nous serions peut-être terrassés chacun ? Que dire de plus que sans la présence de Dieu aujourd'hui, je me tiendrais loin de là, devant vous ? Je serais peut-être en train de me droguer, que sais-je ? Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous avez cette envie, j'aimerais bien, moi, connaître le scénario sans Dieu. Alors pas pour le vivre évidemment, mais simplement pour m'apercevoir encore un peu plus combien Dieu est grand et combien sa présence dans nos vies a été déterminante et reste déterminante. Alors oui, que dire de plus ? J'ai envie de dire ouf, ouf, Jésus donne cet ordre de mission et termine par « je serai avec vous ». On pourrait se dire humainement parlant, mais Jésus, pourquoi t'as pas commencé par ça ? Dis-nous d'abord que tu es avec nous. Et puis ok, on prend l'ordre de mission. Mais non, Jésus conclut son ordre de mission par « je serai avec vous ». Je pense que ça nous indique déjà une petite clé, c'est que le Seigneur attend de nous, suite à son appel, eh bien, qu'on y aille et que l'équipement va venir. L'ordre de mission de l'Éternel, et quel qu'il soit, et on le voit dans l'Ancien Testament, on prendra quelques exemples, passe par une réponse à l'appel et l'intendance suivra, et la bénédiction suivra, et l'équipement de l'Éternel à notre égard va venir. Amen. Alors, on peut voir que ce « je serai, je suis avec vous tous les jours », il est inscrit, et ça a été un peu le plaisir que j'ai eu à travailler un peu ce sujet, il est inscrit de manière prophétique depuis très très longtemps. Comme beaucoup de sujets, et c'est là qu'on voit l'harmonie de l'Ancien et du Nouveau Testament, comme beaucoup de sujets, ça vient dans une suite harmonieuse, dans un plan parfait, jusqu'à annoncer, rappelons-nous, l'ange qui annonce l'arrivée de Jésus. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. On voit que la venue de Jésus est déjà inscrite, est déjà imprégnée de la présence, de sa présence qu'il nous promet, Dieu avec nous. Et on voit que l'ange s'appuie sur une prophétie d'Ésaïe dans Ésaïe 7, où il est annoncé qu'une Vierge enfantera Emmanuel. Donc on voit déjà que Jésus reste cohérent par rapport à l'Ancien Testament, que tout est cohérent, et on verra que ça va même un tout petit peu plus loin, et que sa présence, la présence qu'il nous promet, eh bien, elle vient selon une suite logique du plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Évidemment, ça bug. Sinon, c'est pas drôle. Excusez-moi, hein, deux petites secondes. Oh, c'est pas grave. On va pas se laisser déstabiliser. Cette promesse inscrite dans l'Ancien Testament est planifiée, prophétisée. Et ça bug là aussi. C'est bon. Voilà. On voit que sa présence, non seulement est prophétisée et planifiée, mais depuis le Jardin d'Éden, on voit que Dieu se plaît à être présent à côté de l'homme, auprès de l'homme. Et ça, on le voit dans le Jardin d'Éden, où on voit que l'Éternel parcourt le jardin vers le soir, montre ainsi la présence de Dieu à côté de l'homme. Et j'essaie de relancer, excusez-moi, en même temps, parce que quand même j'ai besoin de mon petit support, voilà, excusez-moi, hein, vraiment. Dans le Jardin d'Éden, et on voit ce « Je serai avec toi » traverser l'Ancien Testament, que ce soit pour Isaac, que ce soit pour Jacob, que ce soit pour Moïse, les mêmes termes sont employés, « Je serai avec toi ». Alors peut-être première clé que je voudrais vous proposer, c'est que lorsque Dieu donne un ordre de mission, lorsque Dieu lance un appel à l'homme, l'appel n'est jamais déconnecté de sa présence promise. En gros, quand Dieu nous appelle, il ne se contente pas de nous confier une mission, il nous accompagne pour la réaliser. Quand Dieu déclare une promesse, quand il a déclaré à Moïse « Libère mon peuple », il ne s'est pas contenté de lui donner ce fardeau, cette charge, mais il a accompagné Moïse, il a dit à Moïse « Je serai avec toi ». Alors, premier élément intéressant, est-ce que du coup nos compétences sont déterminantes dans l'appel de Dieu, d'après vous ? Est-ce que Moïse était le plus qualifié pour libérer le peuple ? Est-ce que Gédéon était le plus qualifié ? Est-ce que Paul, l'apôtre Paul, était le plus qualifié pour édifier l'Église alors qu'il la détruisait ? Alors que son objectif premier était de la détruire. Et là, on voit un point d'humour de Dieu dans son appel. Rarement, ça peut arriver, rarement, la compétence correspond à l'appel. Et c'est quel encouragement pour nous ce matin ? Quel encouragement ! L'essentiel n'est pas notre compétence ce matin. L'essentiel, c'est que Dieu nous ait appelés. Et en confirmation, que dit ? On peut passer à la slide suivante. En confirmation, que signifie du coup que Dieu est avec nous ? Eh bien, je pense vraiment que ça signifie que Dieu s'engage à accomplir ses promesses. Être avec signifie que Dieu va accomplir ce qu'il a promis à travers nous, selon son appel. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais ? Ouais, Timothée ? Bon. Et on voit que sa présence va connaître une progressivité, une progression. Au début, rappelons-nous, l'Ancien Testament, le niveau de révélation de l'Ancien Testament, c'est quand même un tabernacle avec un lieu très saint, avec une possibilité d'être en connexion avec Dieu qui était réservée au souverain sacrificateur. Deuxième étape, Dieu manifeste sa présence en s'incarnant. Il est parmi les hommes sur terre. Donc sur un temps donné, Dieu fait bénéficier de sa présence aux disciples, mais pas que, aux gens qui l'entourent. Et troisième étape, c'est ça qui est merveilleux. Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous promet sa présence tout le temps. Et en nous, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce ! Est-ce que nous réalisons que nous vivons la plus belle période de la révélation, avant évidemment la révélation ultime et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, mais est-ce que nous réalisons que nous vivons l'excellence de la révélation ? Paul va le dire à plusieurs reprises. Oui, nous avons cette capacité à être en présence et nous avons le Saint-Esprit en nous, ça ne s'est pas connu dans l'histoire. La présence de Dieu est manifestée comme jamais dans l'histoire avant la suite. Et je pense que ça change totalement nos perspectives, notamment dans l'appel que Dieu va nous donner et dans le service que nous allons avoir. Parce que c'est pas pareil de prendre une mission, un ordre de mission en le portant sur nos épaules ou en déclarant que Dieu va accomplir ses promesses au travers de nous. Et je crois qu'on a souvent, moi le premier, pris, vous savez, la mission de l'Éternel comme une pression parce qu'on a voulu avoir du résultat. Il y a même eu des méthodes d'évangélisation. Alors, je suis pas contre les méthodes, attention, hein, mais à une époque, vous aviez des méthodes très anglo-saxonnes, mais qui presque vous disaient comment vendre l'Évangile, quoi. Comment convaincre quelqu'un de devenir chrétien. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de convaincre quelqu'un? De faire œuvre de persuasion, mais je pense qu'il y a une révélation. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans l'œuvre de nouvelle naissance, ça ne sert à rien. On pourrait être les meilleurs vendeurs du monde. Il y a une révélation qui s'opère. Et quand Jésus dit « Je serai avec vous », il sous-entend ça, il sous-entend « Mais la mission que je vous ai donnée là, ne vous mettez pas la pression, c'est moi qui vais réaliser ça au travers de vous. » De faire des disciples, de les enseigner, c'est effectivement, vous allez être en action, mais c'est moi qui vais réaliser. Et j'aime bien ce principe, slide suivante s'il te plaît, j'aime bien ce principe que Paul nous rappelle dans que Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 3:7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et je pense qu'on a l'explication de la dynamique, de l'intervention de Dieu et de notre participation à cette intervention. Le miracle, c'est Dieu qui le fait. Et le danger serait de penser, de commencer à penser que nous avons une part dans ce miracle. Et là, je donne peut-être une petite alerte, parce que Facebook, vous savez, c'est une ouverture sur le monde et une ouverture des fois sur des choses. Moi, je vois sans arrêt passer des slogans à longueur de journée. On voit presque plus des paroles de gens, parfois de pasteurs, que de la parole de Dieu qui est exprimée, quoi. Comme si, à un moment donné, on pouvait accroître l'impact du Saint-Esprit dans la vie des gens. Nous sommes des ouvriers. Dieu réalise ses promesses au travers de nous. Et c'est bon, je pense, de se le rappeler, parce que ça nous enlève une pression et ça nous met à notre juste place. Alors, quand on parlait, slide suivante, quand on parlait de l'histoire de la présence de Dieu et de la perspective que Jésus nous propose, rappelons-nous, et pareil, je redécouvrais ça vraiment avec plaisir, que cet ordre de mission que Jésus donne, de faire des disciples, il est très ancien. Il est rattaché à une promesse très ancienne faite à Abraham, que toutes les nations seraient bénies à travers lui. Et je pense vraiment que la bénédiction que Dieu avait à l'esprit était la vie éternelle par la foi en Jésus, qui nous est rappelée dans Galates. Et donc, à travers ses disciples, faisant d'autres disciples, Dieu va accomplir sa promesse de bénir toutes les nations. Amen. Est-ce qu'on est convaincu ce matin que, disciples que nous sommes, nous bénissons les nations? Est-ce que nous sommes convaincus que l'Église, la place que l'Église a dans la société, est une source de bénédiction pour les nations? Amen. Autant on peut être convaincu que ça l'est de manière théorique et qu'on n'est pas encore dans une œuvre de bénédiction extraordinaire, mais sachez que nous sommes des éléments de bénédiction, je dirais malgré nous, parce que le plan est inscrit depuis très très longtemps. Dieu a promis de bénir les nations par Abraham. Nous sommes les descendants spirituel d'Abraham. Et Dieu, donc, a décidé de bénir les nations par notre intermédiaire. Waouh ! Si Jésus ne dit pas « Je serai avec vous tous les jours », c'est lourd comme mission, c'est même impossible. Enfin, je ne sais pas comment vous la prenez, cette mission, mais moi, de bénir avec toutes mes imperfections, de bénir ma nation, non, quoi. Non. Par contre, Jésus avec moi, oui. Et vous savez, on m'a fait un super compliment là, et vous fais entrer dans mon intimité. On m'a fait, alors ça pourrait être pris pour un compliment ou pas du tout, mais je l'ai pris pour un compliment. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les grandes entreprises, on apprend à se savonner les planches, et c'est devenu un sport national, vraiment. Entre les services, entre les directions, entre les gens, etc. C'est même devenu une compétence. D'être malveillant est devenu une compétence dans nos entreprises. On vous évalue selon votre capacité à savonner la planche. Alors évidemment, c'est jamais dit comme ça, hein, mais enfin, la réalité, c'est vraiment celle-ci. Et un tel, et un tel, et un tel. Et figurez-vous qu'une de mes collègues de travail parlait de collègues, parlait d'un tel, etc. Et m'a dit, oh, et elle m'interrogeait, et lui, ça se passe bien? Bah ouais. Et lui, bah ouais. Et elle, bah ouais. Et elle me dit à un moment donné, ouais, Franck, t'es un peu pénible, toi, t'aimes tout le monde. Alors, pour nous, moi je l'ai pris comme un compliment, hein. C'était pas du tout un compliment, vous avez bien compris. On passe pour des naïfs. Mais amen, quoi. Amen. Comment allons-nous bénir les nations? Et je vous dis pas ça pour me mettre en avant, c'est juste pour présenter les inversions de valeurs que nos sociétés vivent. Nous allons bénir les nations en aimant. Voilà un indice de la présence de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes enfants, en nous aimant. Amen. Et je trouve que quand on parle de concret, moi je voudrais qu'on honore Samuel, par exemple, d'avoir eu cette initiative de la commission sociale, et on peut l'applaudir, parce que ça, c'est pas de la théorie, ça. Hein, c'est bon, nos super concepts. Mais quand on passe à l'action qu'on aime concrètement et qu'on met en place des dispositifs pour aimer, mais on active la présence de Dieu, mes amis. Amen. Alors, une chose miraculeuse, on aime beaucoup la louange, on aime beaucoup l'adoration, et je pense que c'est aussi une des manières de manifester la présence de Dieu et réaliser sa présence, c'est le fondement de notre joie. Réaliser sa présence dans nos vies, c'est le vrai fondement de notre joie. On peut passer à la slide suivante. Et pour exemple, repositionnons dans le contexte de Jésus délivrant cet ordre de mission à ses disciples. On est évidemment après la résurrection, on est juste avant l'ascension. Imaginons comment Jésus a pu impacter la vie de ses disciples. Ils sont restés 3 ans à vivre ensemble. Ils ont vu des miracles. Jésus les a aimés. Ils ont vu la puissance de la parole, de sa parole, quand il a calmé la tempête, etc. etc. Je vous en parle. Multiplication des pains, on ne va pas tout repasser, évidemment. Mais quel lien les disciples devaient avoir avec Jésus? Vous savez, quand on voit des sectes un peu dans le monde dont le gourou disparaît, le mouvement n'existe plus. Quelle différence fondamentale! Jésus part et regardez ce qui se passe. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Waouh! Jésus les quitte. Humainement parlant, c'est dramatique pour eux. Leur vie est fondée sur sa présence. Leur vie est fondée sur cette proximité qu'ils ont vécue avec lui. Il part, ils sont joyeux. Pas normal. Pas normal. Il se passe quelque chose là. Sa présence, cet ordre de mission que Dieu leur donne, génère la joie et la vraie joie. Pas une joie qui est liée à un événement. Et je pense que nos temps de louange célèbrent sa présence et fonde notre joie ce matin. Peut-être qu'on n'a pas de raison objective d'être joyeux ce matin. Peut-être qu'on vit des choses difficiles. Mais la réalité de sa présence que je déclare, qu'on déclare sur chacun de nous, fonde notre joie ce matin. Et comme je disais tout à l'heure, on a quand même des indications. J'appelais ça des indices de sa présence, mais je suis désolé, c'est pas très théologique, hein, mais tant pis, vous me prenez comme je suis. Oui ? C'est pas très convaincu tout ça. Karen, viens mon ami. Ah ben elle est plus là. des indices de sa présence. Évidemment, on connaît tous ces passages, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'aime beaucoup ce passage qui rejoint peut-être la commission sociale. Tu peux la slide suivante, s'il te plaît ? Dans Matthieu, en Matthieu 25, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Un autre indice de sa présence. Et quand on pratique, le Seigneur est là. Parce que nous manifestons sa présence, nous sommes le corps de Christ. Et en agissant ainsi, nous manifestons sa présence. Alors évidemment, tous les jours, à la suite de ce verset, on peut dire que tous les jours concernent évidemment nos jours de joie, mais aussi de détresse, nos jours de difficulté, de persécution, de maladie, de découragement, là où on aurait tendance à penser que Dieu n'est pas là. Et notre prière, quand nous vivons des temps comme ça, c'est de demander au Seigneur de manifester sa présence dans nos émotions, dans nos corps, de nous faire toucher sa présence encore un petit peu plus. Et c'est la seule prière peut-être qu'on puisse faire dans ces moments très difficiles, c'est que cette paix, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui surpasse toute intelligence, puisse nous habiter comme tout à nouveau. Mon beau-père me disait souvent, Michel, quand je lui disais « mais j'ai pas la paix, je suis pas bien », il me disait souvent « attention, tu n'as pas le sentiment de paix, mais tu as la paix parce que Dieu le déclare ». Et c'est vrai que nos émotions peuvent déclarer des choses des fois inverses à une réalité spirituelle. Mais déclarons que le Seigneur aussi est capable de toucher nos émotions, et on a besoin aussi que nos émotions parfois soient touchées. Et tous nos amis qui passent par un temps difficile maintenant, eh bien je demande aussi au Seigneur de toucher leur cœur, leurs émotions. Tout notre être a besoin de la présence de Dieu. Alors, cet ordre de mission, et on pourrait passer deux slides directement. Cet ordre de mission, il est fondé quand même sur une bonne nouvelle, sur une très très bonne nouvelle. Amen. Vous savez, quand on fait du gospel, souvent on dit gospel veut dire évangile, veut dire bonne nouvelle, et on en profite pour annoncer l'évangile. Mais moi, la question que je me pose quand même, c'est sommes-nous vraiment convaincus que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle ? C'est peut-être intéressant de se réinterroger un peu. Parce qu'ok, on a une bonne nouvelle et tout, mais oh, c'est quoi la bonne nouvelle ? Et qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle pour notre voisin, pour notre société ? On a dit qu'on était, depuis Abraham, inscrit dans une promesse de l'Éternel de bénir les nations. Mais on va les bénir. Pourquoi ? Quelle est cette bonne nouvelle ? Et c'est bon peut-être de se rappeler ces fondamentaux, parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Et alors, vous savez, quand on parle de nouvelle, d'une bonne nouvelle, c'est souvent parce qu'il y en a une mauvaise. Hein ? On peut dire que je vous annonce une bonne nouvelle parce qu'avant, il y en avait une mauvaise. Alors si on peut... la slide d'après ? Voilà. Hein ? Si je vous présente un verre d'eau, ça peut être une excellente nouvelle pour celui qui sort du désert et qui est assoiffé, comme une nouvelle moyenne pour quelqu'un qui est abreuvé et qui est bien hydraté. Alors, quelle est la mauvaise nouvelle ? Si on peut revenir à la slide précédente, pardon. Évidemment, tout ça, on connaît, mais je pense que c'est bon de se le rappeler, parce qu'on a une vraie bonne nouvelle, et on a tendance parfois à l'oublier. Et c'est quand même le support de notre ordre de mission. Romains 3, 23, « Tous sont péchés, alors c'est version parole vivante, ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. » Personne ne saurait prétendre à être approuvé de Dieu. Voilà l'état de l'humanité, on le sait tous, la chute. Voilà la mauvaise nouvelle. Et évidemment, Isaïe qui prophétise, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc la principale mauvaise nouvelle, eh bien, c'est la séparation. La principale mauvaise nouvelle qui fonde ce qui va se passer derrière, c'est la séparation. Oui, nous sommes séparés de Dieu. Et comme nous avons été créés pour cette relation totale avec lui, eh bien c'est une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Parce que séparés de son Créateur, nous perdons le but ultime, célébrer la gloire de la grâce de l'Éternel. C'est le but de la création. Et donc c'est la mauvaise nouvelle. Et évidemment la bonne nouvelle, juste après, enfin encore après, pardon, eh bien c'est la réconciliation. Voilà la bonne nouvelle que nous avons à annoncer, mes amis. La réconciliation. Nos sociétés sont fracturées de cette séparation. On voit qu'il y a une séparation du Créateur liée à la chute et de l'humanité. Mais dans nos sociétés, on voit très bien que cette séparation, elle a des signes, elle a des stigmates. Est-ce que vous avez connu une société plus fracturée que la nôtre aujourd'hui ? Entre la séparation des races, la séparation des cultures, la séparation des niveaux sociaux, je pense que nos sociétés ont connu des séparations comme à aucun autre moment. Il y a moyen de se séparer même entre deux villages, quoi, sérieusement. Il y a des camarguais entre deux villages, ils sont capables de trouver des différences. Vous imaginez ? Le cœur de l'homme est fracturé de cette séparation. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu propose cette réconciliation. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Et je voudrais qu'on zoome sur régénération. C'est un mot grec, palygénasia, qui est super intéressant. Moi qui m'a parlé. Ce terme, il veut dire restauration à l'état d'origine. Vous savez, il y a des informaticiens parmi nous, vous savez quand vous avez un ordinateur qui bug là, vous avez possibilité de faire une restauration système ou de refaire une restauration comme à l'état d'usine. Eh bien, c'est un peu ça que ça veut dire. Le baptême de régénération, ce que Dieu propose à l'humanité, c'est de connaître l'unité parfaite en Christ que nous avions connue avant la chute. C'est ça le débat, mes amis. Il n'est pas ailleurs le débat. La réconciliation ultime par Jésus-Christ est pleinement manifestée là-haut. Enfin, là-haut, selon les deux. Après, c'est ça. C'est qu'on a la possibilité d'annoncer aux hommes qu'ils ont la possibilité de retrouver leur destinée, leur véritable destinée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ? Je voudrais vous interroger. Est-ce que vous avez connu une joie plus pure, plus parfaite que quand vous êtes pleinement dans la présence de Dieu ? Quand on dit un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, est-ce que quelqu'un a connu une joie supérieure à ça ? Non ? Bon, s'il y en a un qui dit oui, je suis un peu mal, mais... Qu'est-ce que ça peut signifier ? Ça peut signifier simplement que nous sommes créés, conçus pour être en relation avec Dieu, et c'est là notre destinée, notre appel ultime. Par Christ, c'est devenu possible. Et nous vivons des prémices. Et sa présence est manifestée et nous fait vivre cette réalité de ce retour, de cette régénération, de ce retour à l'état d'origine, ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Parce que rappelons-nous, et slide d'après, rappelons-nous le but ultime de la création. Tout a été créé par lui, pour lui. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ pour célébrer la gloire de sa grâce. Et si on revient à l'origine, on a été créé pour ça, mes amis. Vous savez qu'on va passer l'éternité à adorer ? Oui ? Et on va être pleinement heureux de ça. Qu'est-ce qu'il a dit, David ? Tu veux le micro ? Non ? Et pour obtenir ça, la bonne nouvelle que nous annonçons, c'est cette mission, slide d'après, cette mission dont, c'est pas un religieux, un Gandhi dira qu'il s'agissait d'un acte parfait. Un homme qui était complètement innocent, il s'est offert lui-même comme sacrifice pour le bien des autres, ses ennemis inclus, et devint la rançon du monde. Ce fut un acte parfait. Il n'y a pas plus parfait que ça. Et le Seigneur nous accompagne dans cet ordre de mission en disant qu'il est avec nous pour annoncer cet acte parfait, pour annoncer la possibilité offerte à l'homme de connaître ce baptême de régénération. Notre mission, évidemment, c'est de partager cette bonne nouvelle et, deux slides après, de manifester aussi la très très mauvaise nouvelle pour l'ennemi. Parce que si pour nous c'est une bonne nouvelle, pour lui c'est une très mauvaise nouvelle. Au point que il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous savez à quoi Paul fait référence là ? Il fait référence à ce qu'on appelle au triomphe romain. Quand, à l'époque, quand un ennemi était défait, il était baladé dans toute la ville en char, publiquement. Vous avez déjà vu dans des films, hein, des péplums. Et tout le monde voyait celui qui avait été vaincu, quoi. Il était publiquement montré en spectacle. C'est ça, hein. Vous savez que il n'y a que sur Terre qu'on a un petit doute, hein. Dans les lieux célestes, c'est clair, hein. C'est clair. Alors moi, je veux bien, vous savez, il y a eu des mouvements aussi spirituels où des fois, on sentait que le combat, il était tendu, quoi. Ouais, l'ennemi, il faut lutter, machin. Non, mais attendez, c'est fait. C'est fait. Le débat, c'est pas de combattre, d'avoir une victoire, c'est fait. Résister à l'ennemi, oui, mais n'allons pas essayer de mener un combat qui n'est pas le nôtre. On n'est pas équipé pour ça. Hein, c'est comme si on vous mettait avec une épée, aller combattre face à un missile nucléaire, peu importe. On n'est pas équipé pour ça. Jésus a tout fait. C'est fait. C'est publiquement constaté. On s'inscrit dans cette bonne nouvelle pour nous et cette très mauvaise pour l'ennemi. Alors je dirais qu'en conclusion, on a un ordre de mission qui est fantastique. Jésus nous a donné la principale capacité pour entrer dans ce champ de mission, c'est qu'il est avec nous. Et je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Et on est inscrit dans une dynamique qui part de beaucoup plus loin. Cette mission de bénir les nations, de bénir notre voisin, de bénir ceux qui ne connaissent pas l'évangile, évidemment de nous bénir entre nous aussi, tant qu'à faire. Eh bien, ça doit être notre mission principale. Et moi, vous savez, j'ai réalisé combien je me faisais perturbé par des missions annexes, progresser dans l'entreprise, gagner de l'argent. Ça n'a jamais été mon objet, je veux dire. Mais on se fait perturber, on se fait parasiter. Notre défi majeur, mes amis, mes frères et sœurs, c'est de reconsidérer cette mission principale. Parce que Jésus est avec nous et d'activer sa présence, le terme n'est pas encore une fois très théologique, mais d'activer sa présence et de s'inscrire dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Je le crois profondément. On a chacun une mission générale, elle nous concerne tous, mais on a chacun des missions que le Seigneur nous confie, des appels. Marchons dans cet appel, sans complexe, sans prétention. Sans complexe parce que le Seigneur nous équipe. Le Seigneur ne nous a pas appelés en fonction de nos capacités, le Seigneur va nous équiper. Donc s'il y a un appel, fonçons. Sans prétention, parce que c'est l'Éternel qui fait croître. On est des ouvriers, on est des ambassadeurs, on manifeste le royaume de Dieu, mais en aucun cas, on doit essayer d'obtenir une victoire qui est déjà acquise, on doit essayer de convaincre, on doit essayer de transformer quelqu'un. Ça, c'est pas notre combat, c'est l'Éternel qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Et j'avais vraiment à cœur de terminer ensemble. On vit tous des choses difficiles. Cette semaine, il y a eu un vécu difficile. Et il y a peut-être la maladie, il y a peut-être beaucoup de choses. Et cette présence de Dieu, ben, elle peut nous paraître, ok, c'est bien, c'est sympa et tout, mais je ne la ressens pas, cette présence de Dieu. Et c'est bien normal. Et je voudrais vraiment qu'on ait un temps de prière où on va fermer les yeux. C'est comme un appel où on dit « Seigneur, je crois parce que c'est écrit que tu es avec moi. Je crois parce que c'est écrit que je ne suis pas seul. Je crois parce que c'est écrit que tu es de mon côté. » Et des fois, je ne comprends pas tout. Mais Seigneur, je veux que au plus profond de moi, tu puisses me toucher maintenant. Au plus profond de moi, tu puisses manifester ta présence. Parce que c'est vrai, je ne veux pas fonctionner en fonction de mes émotions, mais j'ai besoin que mes émotions ce matin soient touchées. J'ai besoin que mon corps soit touché si je suis malade. J'ai besoin que ma famille soit touchée. J'ai besoin que tout ce que je vis dans mon quotidien soit touché de ta présence ce matin. Et merci Seigneur parce que tu vas le faire. Et je voudrais, je veux pas être multiplier les appels, mais je crois que c'est important ce matin. Je voudrais simplement qu'on manifeste. Vous savez, comme quand on, dans l'Ancien Testament, il y avait des autels qui montaient vers l'Éternel, l'Éternel descendait. Et de manière symbolique, que notre bras levé soit comme un autel que nous faisons monter vers l'Éternel. Et les bras levés, eh ben, démontrent toutes nos incapacités, tout ce qui fait que qu'on a l'impression de soit de pas être digne, soit de pas être dans une bonne forme pour accueillir la présence de Dieu. Mais l'Éternel te dit, contente-toi de monter les pierres, lève ta main ce matin, et je vais manifester de manière miraculeuse ma présence. Je vais toucher tes émotions, je vais toucher ton corps, je vais toucher tout ce qui fait ton quotidien ce matin, parce que je suis ton Dieu. Et pendant que Gabriel va monter, on va faire cette prière ensemble. On a levé nos mains. Seigneur, je te demande maintenant de bénir de manière particulière tous ceux qui sont manifestés et même les autres. Peut-être ce matin tu ne connais pas ce Seigneur, tu ne comprends pas cet ordre de mission, mais le Seigneur veut simplement manifester sa présence en toi ce matin. Ne résiste pas. La vraie vie, la vraie régénération, ta vraie destinée est là, pas ailleurs. Arrête de chercher. Accepte-le dans ta vie. Laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont levé la main ce matin et tous les autres, je déclare maintenant la bénédiction sur chacun de vous, de la part du Seigneur. Le Seigneur vous bénit. Et aujourd'hui, cette semaine, le Seigneur va manifester des actes concrets de sa bénédiction, des actes concrets de sa présence dans chacune de nos vies. C'est ce que je demande à l'Éternel pour chacun de nous. Amen.
Nous entrons dans ta présence.